Je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, à écouter la lecture de la Bible, deux lectures, d'abord dans l'Ancien Testament, le psaume 8. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, de tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune, les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal d'un Dieu. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce qui a été créé. Tu as tout mis sur ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Et puis dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er, les versets 8 à 12. Jésus déclare à ceux qui étaient réunis auprès de lui, « Vous recevrez une force. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel, pendant que tous le regardaient, puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés en blanc se trouvèrent tout à coup auprès d'eux. Ils leur dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'y avez vu partir. Les apôtres retournèrent alors à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Je vous invite, chers frères et sœurs, à chanter le cantique numéro 251, la première, la deuxième et la troisième strophe du cantique 251.
Thank you.
Recueillons-nous dans la prière. Éternel, parfois ta voix a du mal à percer dans nos vies, dans nos cœurs. Nous vivons dans tant de bruit et d'inquiétude. Nous n'entendons pas toujours ta parole de paix, de vie, de liberté. Parole venue du passé à travers le vieux livre de la Bible. Parole cachée au cœur du monde et au cœur de nos cœurs. Que notre esprit s'ouvre à ton esprit, qui fait souffler des vents libérateurs et trace des chemins d'aventure, de justice et d'espérance, chemins sur lesquels Jésus a marché et nous invite à le suivre. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, nous avons décidé avec votre pasteur, Vincent Subac, que la prédication de ce jour serait consacrée au thème de l'ascension, puisqu'il n'y a pas au foyer de l'âme de culte de l'ascension ce jeudi prochain. Je vous propose trois étapes pour la prédication de ce culte. Tout d'abord, les raisons d'une certaine dévalorisation de cette fête dans les cadres du protestantisme actuel. D'autre part, quelles sont les principales significations que l'on a pu donner à cette fête de l'Ascension ? Enfin, dans une troisième étape, nous essayerons d'apporter une cinquième signification qui établira un parallèle entre Noël et l'Ascension. Alors tout d'abord, pourquoi cette fête de l'Ascension est si peu célébrée ? La plupart des paroisses réformées en France ne la fête pas, et j'ai pu constater la semaine dernière où j'étais en Suisse que c'est la même chose en Suisse romande. Alors une première raison tout à fait évidente, c'est la place minime qu'occupe le récit de l'Ascension dans le Nouveau Testament. Rien dans l'évangile de Matthieu, rien dans l'évangile de Jean, sauf si on rattache à l'Ascension le thème de la glorification de Jésus qui appartient à la thématique de l'Ascension, mais rien sur l'événement en tant que tel. Un verset dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, verset 19, dans ce qu'on appelle la finale longue de l'évangile de Marc, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que les derniers versets de cet évangile ont été postérieurement ajoutés et que les plus anciens manuscrits de l'évangile de Marc ne comprennent pas cette finale. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, un verset, verset 51, qui relie l'évangile de Luc aux actes des apôtres, dont Luc serait probablement l'auteur. Et alors, dans les actes des apôtres, nous l'avons entendu tout à l'heure, au chapitre 1er, les versets 9 à 11, trois versets. Donc, en tout et pour tout, dans le Nouveau Testament, cinq versets. C'est très peu. C'est très peu si l'on compare cela, par exemple, au thème de la passion, de la croix, de la mort, de la résurrection de Jésus, on a pu compter qu'il y avait là en gros un tiers de chaque évangile consacré de manière directe ou indirecte à la croix. On a parlé d'une theologia crucis, d'une théologie de la croix, plus particulièrement, il est vrai, dans les textes de l'apôtre Paul, dont s'est inspiré très largement Luther, qui est le témoin de cette théologie de la croix. Luther qui a été marqué par l'épître aux Romains, au point qu'il disait que l'épître aux Romains est bien plus un évangile que les autres évangiles, et au point que dans l'histoire du protestantisme, cet épître aux Romains est presque devenu, je vous l'ai déjà dit, un cinquième, pour ne pas dire le premier, évangile. Noël, rien, nous le savons bien, dans l'évangile de Marc. Et qui irait prétendre que Marc a écrit un évangile incomplet. C'est le plus ancien des évangiles. Rien dans l'évangile de Jean, mais nous connaissons tous, bien sûr, les récits merveilleux. J'emploie ce mot dans les deux sens qu'on peut lui donner, chez Luc et chez Matthieu. Pentecôte, bien sûr, le récit assez développé des Actes des apôtres, et le thème de l'Esprit est central dans l'évangile de Jean. C'est là que Jésus déclare « Dieu est Esprit » et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le thème de l'Esprit central aussi dans les épîtres de Paul. C'est Paul qui interroge ses lecteurs en disant « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Même des fêtes secondaires, comme les rameaux, eh bien, on a un récit très détaillé, assez long, dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le récit de la transfiguration dans les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc, un long récit, et on pourrait très bien, chez les réformés, fêter la transfiguration, ce qui se fait d'ailleurs régulièrement chez les luthériens. Donc c'est la première raison, peu de place finalement dans le Nouveau Testament pour cette ascension, et cela par rapport à toutes les autres fêtes, plus ou moins importantes. L'histoire. Pentecôte est une fête tardive, qui n'apparaît qu'au IVe siècle. Vous savez que la première fête chrétienne, ça a été Pâques, hebdomadaire. On fêtait Pâques chaque semaine. Pendant environ 150 ans, il n'y a pas eu d'autres fêtes chrétiennes. Et puis est apparue la fête annuelle de Pâques. Et cela a duré environ 3 siècles avant que s'ajoutent peu à peu les autres fêtes du calendrier chrétien, dont la dernière, alors que c'est aujourd'hui la plus populaire et dans un sens heureusement, dans la dernière est celle de Noël, 5e, 6e siècle, selon les régions. Alors l'ascension apparaît au 4e siècle et se confond alors avec le récit et la fête de Pentecôte. C'était une seule et même fête, vous l'avez entendu tout à l'heure dans le texte que je vous ai lu, l'annonce de l'envoi de l'Esprit et le récit en tant que tel de l'ascension sont absolument unis. Et puis l'ascension deviendra une fête autonome seulement au 4e siècle, au 5e siècle. Les fêtes chrétiennes n'ont pas du tout la même histoire selon qu'on est dans telle ou telle région du monde. Mais voyez-vous, je pense que la principale raison qui fait qu'on ne fête pas vraiment l'ascension, c'est, je dirais, son caractère mythologique. C'est invraisemblable, c'est incroyable, on peut s'en passer sans que l'essentiel de notre foi ou de l'Évangile en soit affecté. Nos conceptions du monde contemporain, qu'il s'agisse de conceptions culturelles, philosophiques, scientifiques, ne correspondent plus du tout à celles du monde de l'époque de Jésus et nous ne pouvons pas dire que Jésus est monté au ciel comme une fusée. Nous n'avons plus cette conception du monde qui a prévalu très longtemps, où l'on croyait, Jésus lui-même le pensait, qu'en haut il y avait le ciel avec Dieu, les anges, puis notre terre, et dans les profondeurs, les enfers. Mais voyez-vous, si c'est vraiment cette raison-là qui empêche de fêter l'ascension, je ne vois pas très bien pourquoi cela n'empêche pas de fêter les autres fêtes chrétiennes qui, elles aussi, sont marquées par de la mythologie. Noël, l'ange de la visitation, les anges qui apparaissent aux bergers, une naissance virginale dont Marc ne parle pas, ni d'ailleurs Paul, dont les épîtres ont été pour la plupart écrites avant les évangiles. Et puis une étoile qui se déplace dans le ciel exprès pour pouvoir guider des mages venus d'Orient. Pâques, le tombeau vide, c'est quand même une grosse question. Le voile du temple qui, nous dit-on, à la mort de Jésus, se coupe, se déchire, se divise en deux. Et puis alors, et ça c'est le sommet, à la mort de Jésus, on nous dit que les tombeaux s'ouvrent et que des morts vivants en sortent et qu'on peut les saluer dans les rues de Jérusalem. Pentecôte, des langues de feu qui descendent sur la tête des apôtres réunis. Jésus qui passe à travers les murs. Alors bien sûr, nous dirons, et c'est tout à fait bien normal et légitime, que ces textes sont symboliques. Et c'est vrai pour tous les textes de la Bible, pas seulement pour ceux que je viens d'énumérer. Il faut voir non seulement ce que les textes disent, mais l'essentiel, c'est ce que les textes veulent dire. Quel est leur sens? Quelle est leur signification pour nous et pour nous aujourd'hui? Alors la question, quel sens pouvons-nous trouver à cette ascension alors que nous ne pensons pas que Jésus ait pu monter au ciel? C'est bien ça la question. D'où ma deuxième étape, quelles sont les principales significations que, dans la prédication chrétienne en général, on a accordées à l'ascension? J'en vois quatre, elles se complètent, elles ne se contredisent absolument pas, et on peut les évoquer à travers des dualités, des sortes de tensions, une tension dialectique entre deux réalités. Et la première, c'est la présence et l'absence de Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est au chapitre 16, Jésus déclare à ses disciples ébahis, qui ne comprennent pas du tout ce qu'il veut leur dire, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » En effet, dans le chapitre qui précède, Jésus annonce, comme c'est le cas pour l'ascension, l'envoi de l'Esprit, et il dit que nous allons vivre sous le règne de cet Esprit qui ouvre le message de Jésus, du Jésus terrestre, historique, à une dimension universelle. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que par l'Esprit, ma vie, ma pensée, mes actions, ma prédication prendront et pourront prendre une dimension universelle qui dépasse le temps et l'espace où Jésus de Nazareth a vécu. Et très souvent dans les évangiles, l'humanité de Jésus est représentée comme un écran entre Jésus et le Christ. En quelque sorte, on ne peut pas croire en lui quand on sait qui il est, d'où il vient et où il a vécu. Alors par l'Esprit, il y a une spiritualisation universelle du message de Jésus, et c'est la Pentecôte, présence, absence. Calvin, le réformateur du XVIe siècle, et Zwingli, l'autre réformateur du XVIe siècle, ont beaucoup utilisé cet argument de l'ascension, dans, surtout pour Zwingli, son débat avec Luther, pour dire Jésus est monté à la droite du Père, il est glorifié. Il ne peut pas être en même temps dans le pain et dans le vin de la scène. La présence du Christ, pour nous, désormais, est uniquement spirituelle et non pas matérielle. Alors, deuxième dualité, ici-bas et en haut, le terrestre et le céleste. Alors, on utilise souvent l'ascension comme une symbolique, illustrant notre vie spirituelle qui doit progresser, nous faire connaître certains détachements. Et c'est ce que dit l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. « Recherchez les choses qui sont au ciel, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non pas de ce qui est sur la terre. » Heureusement qu'on ne suit pas cette recommandation de l'Épître aux Colossiens et qu'on se préoccupe des choses qui sont sur la terre. Alors on veut voir là, bien sûr c'est exprimé dans un langage excessif, une exigence spirituelle, l'affirmation de valeurs spirituelles plutôt que matérielles. On trouve là ce qu'on a souvent défini dans le christianisme comme la primauté du spirituel. Mais voyez-vous, ces deux premières significations, donc présence et absence de Jésus, ici-bas ou terrestre et en haut céleste, quand on les prend de manière trop radicale et exclusive, nous font courir un certain danger. Elles peuvent conduire, et elles ont conduit dans le christianisme, à un spiritualisme exsangue, à un christianisme désincarné, en contradiction avec le message du Nouveau Testament qui est centré sur l'incarnation. On se rappelle que le prologue de l'évangile de Jean déclare « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité ». Ça n'est pas du tout dit dans le sens d'un pessimisme dévalorisant. Et alors on a dénoncé dans l'athéisme, surtout au XIXe et au XXe siècle, cette sorte d'aliénation religieuse où les chrétiens sont toujours tentés de dévaloriser le corps au profit des âmes ou de dévaloriser la terre au profit du ciel, nous l'avons entendu dans l'Épître aux Colossiens, de dévaloriser ce qui est matériel, physique, sexuel même, au profit d'un esprit désincarné. Ce n'est pas ça, l'Évangile. Alors Nietzsche disait dans son fameux livre « Ainsi parlait Zarathoustra », « Frères, restez fidèles à la terre et ne croyez pas ceux qui vous parlent d'espoir supraterrestre. » Alors on a voulu réagir à ce reproche qui nous était fait à juste titre. On a voulu réagir et c'est l'apparition dans cette réaction de tout un christianisme social dont un des pionniers, nous le savons bien, est Wilfred Monod, le père de Théodore Monod, l'homme du Sahara, le pasteur Wilfred Monod, qui est un des pionniers d'un christianisme social avec Elie Gounel, par exemple. Et en 1902, je crois vous l'avoir déjà dit, il publie un recueil de prédications intitulé « Sur la terre ».« Sur la terre ». Alors, ce titre nous paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque, il a pu choquer sur la terre. Mais on attendait d'un pasteur qu'il écrivit un recueil de prédications intitulé non pas sur la terre, mais vers le ciel. Et c'est bien ce que font 99% de nos cantiques qui sous-estiment la terre par rapport au ciel. Et puis une troisième dualité, une troisième tension, le départ du Christ et le retour du Christ. Alors nous avons entendu dans les Actes des Apôtres, c'est au verset 11 du premier chapitre, deux hommes habillés de blanc, on ne sait pas qui ils sont et d'où ils viennent, probablement des anges, des messagers de Dieu, apparaissent tout à coup et ils disent de Jésus aux personnes qui sont rassemblées, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. la première génération chrétienne, et l'apôtre Paul en tête avec elle, ont attendu le retour du Christ et l'instauration du royaume de Dieu d'un jour à l'autre. D'un jour à l'autre, au point que Paul écrit dans une de ses lettres que certains de ses contemporains ne mourront pas sans avoir vu le retour du Christ. Or, cela fait 2000 ans que nous l'attendons, ainsi que l'instauration du royaume de Dieu. Alfred Loisy, un grand exégète, historien, catholique, romain du christianisme, écrit en 1902, la même année, vous voyez, que Wilfred Monod, pour son recueil de prédications, écrit en 1902, dans un petit livre, L'Évangile et l'Église, « On attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Alors, cela fait sourire les protestants, mais nous entendons que Loisy aurait dit « Nous attendons le royaume, mais c'est l'Église qui est venue ». Bien entendu, l'Église catholique romaine. Or, Loisy, qui sera bientôt condamné par Rome, excommunié, heureusement il pourra devenir professeur au Collège de France, Loisy ne dit pas du tout ça. Il dit « On attendait le royaume et c'est l'Église qui est venue » parce que pour l'Église catholique romaine, cette Église représente les prémices et les arts du royaume de Dieu, ce que nous sommes très loin de penser dans les familles protestantes. Alors, quatrième tension, dualité, qu'on entend prêcher au moment de l'ascension, immobilisme et marche. Et je pense que c'est peut-être quand même la pointe de ce récit de l'ascension, toujours dans les Actes des Apôtres, toujours au verset 11, les hommes en blanc déclarent « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Il me semble que c'est la conclusion de ce texte qui nous invite à dépasser une autre tentation religieuse, celle d'une attente passive. J'ai souvent dit que dans le christianisme, joindre les mains, ce n'est pas se croiser les bras. Et quand Jésus affirme sur la croix « tout est accompli », il le fait par rapport aux promesses. Mais nous savons bien que pour nous, tout reste à faire et que Jésus inscrit pour nous au cœur de l'Évangile, non pas « attendez-vous d'un jour à l'autre à voir arriver le royaume de Dieu », mais que, au contraire, Jésus inscrit dans son message, sa prédication, son enseignement, il inscrit une éthique active, une éthique très mobilisatrice et créatrice. Et c'est Jésus qui dit « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples et non pas c'est à l'attente passive que vous aurez qu'on verra bien que vous êtes mes disciples. » C'est d'ailleurs très étrange. Et je me rappelle que le pasteur Marshall le signalait souvent ici, que l'argument de la non-venue du royaume de Dieu, du non-retour du Christ annoncé, n'ait jamais été utilisé par les adversaires nombreux du christianisme dès ses origines pour dire « Vous voyez bien, votre message n'a aucune valeur, il est démenti par ce que vous attendez, par ce que vous annoncez, par ce que vous proclamez. » Très intéressant de voir que cet argument n'a pas été utilisé. Alors, troisième étape, une cinquième signification possible, me semble-t-il, de l'ascension. Elle est mise en relief et en évidence par l'orthodoxie grecque et russe, et il me semble qu'elle attire là notre attention sur quelque chose d'absolument fondamental et que j'ai déjà signalé à l'occasion de ma prédication conférence, vous vous souvenez de cela peut-être pour certains d'entre vous, du 31 janvier, ici même. D'habitude, on nous dit l'Évangile est encadré par la naissance de Jésus et l'événement de Pâques. Et c'est vrai que la crèche et la croix sont finalement taillées dans le même bois, celui de l'exclusion et de la solitude. Mais il me semble que c'est une erreur de voir ainsi la symétrie. Parce que la croix, je l'ai rappelé tout à l'heure, n'est pas à l'autre extrémité de l'Évangile, elle est au centre. Elle représente un tiers de l'Évangile et de tous les Évangiles. Alors, c'est Paul, rappelez-vous, qui écrit « Je n'ai rien voulu savoir parmi vous, rien d'autre, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Bien sûr, quand il dit cela, il entend la croix aussi à travers la résurrection. Et il me semble intéressant d'établir une autre dualité, de voir une autre tension qui serait Noël et l'Ascension. Et c'est exactement ce que fait l'Évangile de Luc avec son récit détaillé de la naissance de Jésus et son récit détaillé de l'Ascension. Il y a là comme un parallélisme, Noël, l'Ascension, mais un parallélisme inversé. À Noël, c'est une manière de dire, bien sûr, symbolique, Dieu descend vers l'homme. À l'Ascension, mouvement inverse, l'homme est élevé à Dieu. À Noël, on pourrait dire, il faut que Dieu naisse en l'homme. À l'Ascension, il faut que l'homme naisse en Dieu. Noël, quand on voit cette réalité toute seule, isolée, la vérité de l'incarnation, peut avoir quelque chose d'un peu pesant, d'un peu écrasant, qui réduit l'homme à la passivité. C'est l'incarnation malgré nous. Or, l'Ascension vient rétablir un équilibre pour définir un humanisme chrétien, un humanisme christique qui dit notre dignité, qui dit notre valeur, qui dit notre marque divine. C'est un christianisme dans lequel on peut dire « En Jésus à Noël ». Bien sûr, c'est une manière de dire « Dieu descend vers l'homme ». Mais en Jésus à l'Ascension, l'homme est élevé à Dieu. Voyez-vous, je pense que cette pensée est au cœur de l'orthodoxie grecque ou russe. Olivier Clément, un des plus grands théologiens français de l'orthodoxie, il est aujourd'hui décédé, a écrit pour saisir l'essence du christianisme, Dieu est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Et l'on a entendu quelque chose de cela dans le psaume 8, dont l'auteur dit que Dieu nous a fait de peu inférieurs à lui. Alors l'Ascension nous invite à ne pas avoir une vision pessimiste, dévalorisante de l'être humain, mais au contraire, aux yeux de Dieu, comme le révèle ce Jésus avec nous, élevé jusqu'à la gloire divine, mais au contraire, à entendre dans l'Ascension le oui de Dieu à notre humanité, à l'humain, à une rencontre qui fonde notre liberté agissante et créatrice. J'ai, dans une de mes dernières prédications, mais je n'ai pas eu l'occasion de la vivre ici, commenté une affirmation de Jésus, très surprenante, sur laquelle on ne prêche jamais, pour laquelle je n'ai trouvé aucun cantique qui puisse l'illustrer, bien sûr, surtout dans le protestantisme. Jésus déclare « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Vous pensez bien que les protestants qui disent toujours que nous sommes pécheurs, uniquement pécheurs, totalement pécheurs et rien d'autre devant Dieu, ne vont pas prêcher sur ce verset dont on dirait qu'il est hérétique, si on ne le trouvait pas dans la bouche de Jésus d'après l'évangile de Jean. « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, mais Jésus précise, parce que je vais au Père. » C'est-à-dire parce qu'il y a ce que je vous ai dit, cette ascension, cet homme élevé à la gloire divine, cet universalisme spirituel du message de Jésus. Parce que je vais au Père. Nous sommes invités à une vocation créatrice, et c'est mon cher philosophe Nicolas Berdiaeff qui a inscrit toute son œuvre dans la perspective de l'action et de la vocation créatrice de l'être humain. L'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est créé créateur. C'est Berdiaev qui dit que par nos œuvres créatrices, artistiques, sociales, morales, affectives, dans l'amour, par nos œuvres créatrices, nous pourrons étonner Dieu lui-même. Amen.